Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le mec, il a trois sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais...
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night.
Il y a Florentino qui était sur rien fait.
Mais qu'est-ce que ça? Fred Hermel, tu parles de Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Il était couple à l'île.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. Comme tous les lundis soirs, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger, mais qui en parlera une heure ce soir quand on laissera la main dès 21h à Gilbert et l'équipe de l'After en tournée au Maroc. Dernière donc de la saison avant de lancer l'Euro dès lundi prochain avec vous, les Drôles de Dame. Aujourd'hui spécial. Awards, récompenses, César, Oscar, appelez comme vous voulez. Les Drôles de Dames vont nous donner leur lauréat, meilleure équipe, pire équipe, révélation issue de la saison, entre autres, jusqu'à 21h. Avec ce soir, évidemment, pour l'Allemagne, une drôle de dame qui aurait pu recevoir un prix pour sa trilogie. Le cinéma est mort, le football est mort, le tennis est mort. Rendez-moi le 20e siècle, collection La Pléiade. Bonsoir, Paulo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nico, c'est une bonne idée. Ça me fait penser à la trilogie de Kieslowski, rouge, bleu, rouge, blanc.
Kieslowski, ouais. Kieslowski. Très bonne trilogie avec Jude Binoche.
Ouais, bleu, c'est exceptionnel.
Tout à fait, à voir.
Je crois que c'est rouge le meilleur. Mais
on peut faire un débat bleu-blanc-rouge, les amis.
Avec Irène Jacob et Joël Trintignant. C'est vrai que c'est exceptionnel aussi.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a...
Non, pas d'ailleurs.
Non, on peut pas.
Pour l'Italie, une drôle de dame, lauréat du DDD d'or pour son film documentaire Max Allegri, Anatomie d'une chute. Excellent film. Bonsoir, Yoann Crochet.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'Espagne, une drôle de dame qui aurait mérité un Oscar pour son cette année, je vois pas le Real. Bonsoir, Fred Hermel.
J'y crois. Hola, Ticos.
Je me souviens bien, début de saison.
C'est-à-dire que quand il y a eu les trois blessés majeurs, je dis c'est pas possible. Et il y a un truc en espagnol qu'on appelle le contragafé.
C'est quoi?
C'est-à-dire que tu dis non, c'est pas possible parce que dans le fond, t'as envie que ce soit possible.
Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui recevra sûrement un prix pour son livre de voyage de l'Emirates à Île de Ré en passant par Charenton. Bien sûr! Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
On est ensemble jusqu'à 21h. Je vous l'ai dit, bien sûr, vous allez nous donner votre pire équipe, la meilleure équipe de votre saison. Celle qui pratique le plus beau football plutôt, puisque nous sommes des esthètes. La révélation joueur de la saison, celle de la saison prochaine, c'est intéressant aussi. Des noms qu'on a peu évoqués peut-être tout au long de la saison avec les Drôles de Dames. Et puis le club à suivre la saison prochaine. Gilbert, lui, prendra le relais, je vous le dis, à 21h. Est-il avec nous, Gilbert?
Oui, Nico, bonsoir à tous.
En direct de Casablanca. Gilbert, ce soir, l'after pendant 3 heures.
Exactement, c'est un événement ce soir de 21h à minuit. Nous serons en direct de l'Institut français ici à Casablanca, en public et à guichet fermé en plus, messieurs dames, s'il vous plaît, pour parler de foot marocain, parler de l'actualité de la sélection, de la vie des clubs, du développement du foot ici, du foot féminin, également du foot dans la société marocaine. Bref, tous ces sujets-là, si vous êtes passionné de foot marocain, ce sera tout à l'heure à partir de 21h avec plein d'invités. Et en plus, on a eu la chance aujourd'hui de visiter le centre d'entraînement de la fédération marocaine, et je peux vous dire que Claire Fontaine peut aller se rhabiller. C'est très très impressionnant. On en parlera tout à l'heure, on débattra. Le 32-16 est ouvert d'ores et déjà, bien sûr. Alors il y a Walid Acharchour, il y a Daniel Riolo qui sont là, donc l'équipe habituelle. Ce sera notre quatrième étape de la tournée internationale de l'After, donc on est ravis d'être ici au Maroc. Donc rendez-vous dans une petite heure. On a beaucoup parlé de Brahim Diaz aujourd'hui, Fredo.
Ça m'étonne pas.
Il est là, il est arrivé ce matin.
C'est quand même dommage que l'Espagne ait laissé passer ce joueur-là, parce que quand tu vois la liste espagnole, tu te dis qu'il y avait quand même une petite place pour Brahim.
Ce sera à partir de 21h. Gilbert, à tout à l'heure.
À tout
mon
à l'heure.
Cher Gilbert, pour l'after. Je vous rappelle également qu'il y a quelques jours de l'Euro 2024, le coffre est de retour sur RMC. Vous allez pouvoir vous équiper pour suivre les Bleus. Si vous êtes sélectionné, vous allez repartir avec un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 euros. Si vous osez l'ouvrir, le coffre RMC, vous repartirez avec soit la Total Euro 2024, un vidéoprojecteur Samsung et son écran de projection sur pied portable, un barbecue électrique Ninja, un fauteuil FFF de la marque Konix, une machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024 qui se nomme Albart, je ne savais pas. Soit une enceinte connectée à l'aide avec micro pour écouter RMC et faire la fête cet été. Vous envoyez dès que vous entendez ce signal-là. Coffre au 7-32-16, coffre au 7-32-16. C'est parti pour les drôles de dames dans Génération After. Tiens, d'abord, rapide, fausse ouverture, comme on dit dans le métier, dans le jargon. Fred, c'est fait qu'Mbappé, 5 ans, Real Madrid, communiqué aujourd'hui du club merengue.
Très laconique, comme toujours avec le Real Madrid. Le Real Madrid et Kylian Mbappé, on trouve un accord pour un contrat de 5 ans. Donc, bah après, il y aura toute la folie qui va être sur la chaîne officielle du Real, qui diffuse en TNT en Espagne. Hein. C'est en gratuit tout le temps. C'est une chaîne nationale. Il y aura plein de vidéos, etc. Tout ça est préparé de longue date. Donc, mais c'est vrai que le communiqué est très laconique. La présentation, ce sera après l'Euro, parce qu'il n'y a pas la place là, parce qu'ils veulent faire un événement absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la célébration à Bernabéu dimanche soir du titre de la Ligue des Champions. Non, je vais faire mon truc, mais ouais, parce que je reçois un message de quelqu'un qui est très très content.
Carlo.
Au-dessus, très très content.
Florentino.
Ouais, Florentino qui me dit qu'il est très content de Mbappé. Je lui envoie un petit message et.
Dis-nous un peu.
Non, c'est un message perso, mais après ça va faire crâner, on va me dire que j'invente. Mais non, c'est voilà, c'est voilà, il est, bon, parce que c'était une démarche personnelle de Florentino Pérez qui était fou de ce joueur depuis très longtemps, qui a été peut-être un moment très fâché, mais voilà, je pense qu'on peut quand même dire que la belle histoire se réalise, parce qu'on peut reprocher à plein de choses à Kylian Mbappé, mais pas de ne pas vouloir venir au Real.
Ah bah là.
C'est-à-dire que
Fred, excuse-moi, il vient de communiquer à l'instant, Kylian Mbappé. Voici ce qu'il dit, ça va pas forcément plaire à pas mal de supporters parisiens, ça va confirmer que son club de cœur c'était pas le PSG. Hein. Un rêve devenu réalité, dit Kylian Mbappé, très heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. Ouais. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. À la Madrid, tous les codes sont là dans le communiqué, le rêve d'enfant qui se réalise enfin.
Plein de joueurs, ils arrivent dans un club, ils le disent et c'est pas vrai. Si Kylian Mbappé avait signé à Liverpool ou au Barça,
là il est sincère, c'est sûr.
Là il est sincère, s'il avait signé à Liverpool ou au Barça et qu'il avait écrit ça, on aurait dit mais tu te fous de notre gueule. Alors que là, on sait qu'il rêvait du Real Madrid. Il y a cette image qui circule beaucoup de Mbappé 13 ans au stade avec, enfin au centre d'entraînement avec Cristiano Ronaldo, ou dans sa chambre de pré-ado avec le poster de Cristiano Ronaldo avec le maillot blanc des Merengues. Donc voilà, on est sur une satisfaction énorme. C'est vrai qu'il y a 2 ans, ils étaient très en colère au Real. Moi, pendant plusieurs semaines, j'ai cru que c'était fini. Puis après, il y a eu la Coupe du Monde quand même. La Coupe du Monde qu'a fait Mbappé, la finale. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit, un joueur comme ça est unique et il doit être dans notre club. Et voilà, il arrive, il va toucher un très bon salaire. Il va
environ 20 millions d'euros. La première signature entre 100 et 115 millions d'euros.
Oui, voilà, première signature. Moi, ça peut être un peu. Je pense que c'est un petit peu en dessous. Ouais, et quant au salaire net, c'est plutôt 15 millions net, mais. Attention, c'est le pourcentage de droits d'image, ouais. Où là, il a pu négocier, c'est-à-dire, normalement, les joueurs ont 50, c'est 50 pour le joueur, 50 pour le club. Il a peut-être obtenu 60 ou 70, sauf que 60 ou 70 au Real Madrid, c'est beaucoup plus que 100% de ses droits au PSG. Parce qu'automatiquement, et c'est bon pour le Real aussi. Tout est bon. C'est vraiment du gagnant.
Et puis, il arrive sur un nouveau marché, le marché espagnol, sur un rayonnement encore différent de celui du PSG, le Real Madrid.
Oui, bien sûr.
Au-delà du salaire, de la prime, il y aura toutes les retombées marketing. Évidemment.
De toute façon, il aurait gagner plus d'argent en restant à Paris. Mais là, il y va pour la gloire.
C'est ça. Bon, rapidement, avant qu'on fasse une pause, est-ce que ça vous excite, ce transfert de Mbappé au Real? Bon, c'est un train qui arrive à l'heure, hein. On le savait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, en tant que supporter du PSG, forcément, il y a un peu de tristesse aussi de le voir partir, même si 7 ans, il a donné 7 ans de sa carrière quand même... À Paris, il aurait pu partir plus tôt, comme on l'a souvent dit. Donc voilà, il y a un peu de ça. Mes enfants ont dit hier soir, on va l'acheter quand même le maillot du Real Madrid avec Mbappé dans le dos. Hein. Bien sûr qu'on va l'acheter. Donc oui, forcément. Et moi, je suis excité. J'étais à la finale samedi. J'ai couvert beaucoup de matchs du Real cette saison. Je suis très très excité de voir cette équipe là avec lui dedans, qui pour moi pourrait très facilement devenir imbattable.
Ça marche. Polo, une réaction?
Pas trop, non.
T'en fous, voilà, très bien.
Ouais, c'est marrant, c'est bien, on gagne du temps.
Non, non, moi, ça m'intéresse de voir comment il va s'intégrer dans cette équipe-là et voir les étapes successives de la carrière de Mbappé, bien sûr.
Alors, comme on n'a qu'une heure, on va déjà commencer à lancer la première minute de la soirée. C'est un interprète suisse qu'on va écouter dans un instant. On envoie la musique, mon cher Polo. Et on reconnaît bien le grain de voix, mon cher Polo, hein.
C'est magnifique.
Ah oui. Stéphane Echer, 1985, Comme Suruc revient. Pourquoi ? Parce que c'est un copain déjà. C'est Peter Zeidler, l'Allemand, qui avait entraîné un peu partout en Suisse, notamment 6 ans, mais en France aussi, à Tours et à Sochaux notamment, et qui pour la première fois va prendre à 61 ans les rênes d'un club de Bundesliga à Bochum. Je suis très content pour lui parce que je connais un petit peu sa carrière. Il avait été longtemps l'assistant de Ralf Rangnick à l'époque où Hoffenheim dévastait tout en Bundesliga, et je sais qu'il avait été en contact ces dernières années souvent avec différents clubs allemands. Il n'a pas voulu franchir le pas aussi parce que sa famille était très bien en Suisse. Il est resté 6 ans à Saint-Gall. Il a fini une fois deuxième du championnat, deux fois en finale. Et je me rappelle, je l'avais appelé après 2022 parce qu'il avait perdu une finale qui était offerte en fait à Saint-Gall. Et il en avait gros sur la patate d'avoir perdu cette finale. Son équipe avait fait la plus mauvaise prestation de l'année. Et donc je suis très très content qu'il prenne le club de Bochum. Mais qu'enfin, à 61 ans, eh ben, il l'entraîne en Bundesliga. Maintenant, il y a un énorme boulot à faire au VfL qui s'est sauvé des barrages d'une façon fabuleuse. Donc voilà, bonne chance à Peter et j'espère qu'on l'aura un jour peut-être dans l'after ou ailleurs.
Très bon choix musical, Polo, que je découvre, que j'aime beaucoup, je te le dis franchement. Ouais. Stéphane Echer, Comme Suruc. C'est ça, revient, c'est ça.
Comme Suruc, hein. Oui.
Voilà, première pause. Dans un instant, les drôles de dames vont nous dire quelle est l'équipe qui a pratiqué le plus beau football dans leur championnat respectif. CRMC, c'est Génération After. À tout de suite.
RMC, Génération After,
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames ce soir jusqu'à 21h, c'est parti pour les récompenses de la saison. Je sais que Polo adore les récompenses, les prix en tout genre, César, Oscar, Palme d'Or, l'équipe qui a pratiqué le plus beau football. Vous allez me dire chacun votre tour, quelle est celle qui vous a le plus enthousiasmé cette saison. Tiens, je vais commencer avec Julien en première ligue. Julien.
Ah, c'est pas que j'ai eu du mal, mais parce qu'en fait, il y a que 2 candidats, vraiment. C'est Manchester City et Arsenal. Derrière, Liverpool, ça a été trop bon et moins bon, notamment en seconde partie de saison. On va pas parler de Manchester United ou de Chelsea. Même Aston Villa, ça a parfois été compliqué. À Tottenham, s'ils avaient gardé flamboyance offensive, j'allais dire, du début de saison, toute la saison, ça aurait sûrement été eux, mais ça n'a pas été le cas, notamment en fin de championnat, en seconde partie de saison. Brighton, on n'a jamais vraiment vu sur la continuité encore une fois, donc voilà, ça a été compliqué, enfin c'était pas que c'est compliqué à choisir, ça pouvait être que l'un des deux, les deux meilleures attaques du championnat. J'ai choisi Arsenal, je comprendrais très bien qu'on en discute, qu'on choisisse Manchester City, même si ça n'a pas non plus toujours été génial et flamboyant, parce que c'est deux équipes qui contrôlent énormément tout ce qui se fait dans un match, ou en tout cas elles cherchent à le contrôler au maximum ce match, donc c'est pas toujours très sexy non plus, même du côté de City et du côté d'Arsenal. Mais voilà, j'ai choisi Arsenal parce que quand même, j'ai trouvé que pendant cette saison-là, c'est là où on s'était fait le plus plaisir, on a eu la meilleure... force collective, on va dire, la meilleure expression collective du jeu, et c'est ce que j'ai voulu retenir dans ce trophée-là.
Arsenal pour Julien, Fred.
Alors si la saison s'était terminée à Noël, je pense qu'il y aurait peut-être eu un petit peu débat, et j'aurais peut-être parié sur la Real Sociedad, mais on l'a vu, hein, notamment contre le PSG, la Real Sociedad s'est écroulée physiquement et mentalement en deuxième partie de saison, et ça c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc, mais finalement l'évidence c'est Gérone parce que pour moi la beauté du football, c'est aussi l'enthousiasme qu'on met quand on joue, c'est-à-dire que il y avait 11 types plus un coach plus les remplaçants qui étaient sur un petit nuage, et rien n'était jamais perdu pour eux. Il y a des joueurs qui ont été au-dessus de leur niveau. Je vois un Eric Garcia qui avait été méprisé au Barça, qui était prêté, qui est revenu au Barça. Ben, il a fait une saison magnifique à Gérone. L'ancien joueur du Real, Miguel Gutiérrez, latéral. C'est très étonnant qu'il ne soit pas d'ailleurs dans la liste pour l'Euro. Quand vous avez vu Savio, le joueur qui appartient à Troyes, enfin au City Group, à Troyes. Quand on a vu le Pichichi, Dovbik, c'est quand même une surprise hein, d'avoir un Ukrainien qui devient Pichichi meilleur buteur de la Liga. Voilà, Alex Garcia aussi qui lui va à l'Euro, donc et qui devrait partir la saison prochaine au Bayer Leverkusen. On avait parlé avec Paulo l'autre jour, et puis surtout Mitchell, l'entraîneur. Donc, je pense que cette Liga a été un peu triste et qu'elle a été animée par la régularité du Real, mais surtout par cette jeunesse, ce souffle d'air frais,
c'est ça.
Qu'a fait souffler Gérone.
81 points, c'est énorme. 25 victoires, 6 nuls, 7 défaites cette saison. Polo, est-ce une surprise ou pas?
Non, évidemment, je vais citer le Bayern Nolfir Leverkusen, déjà parce que c'est le style de jeu que j'aime, c'est-à-dire c'est un jeu de possession, mais qui est aussi lié avec la technique, puisque on est à près de 90% de passes réussies en Bundesliga pour Leverkusen, qui a amené un véritable air frais, j'en viens un vent frais dans la Bundesliga en finissant invaincu, en étant pour la première fois, pour les raisons historiques, champion de Bundesliga. Donc évidemment, le Leverkusen d'Alonso me semble largement l'équipe qu'il fallait voir cette saison. Il n'y a pas photo à ce niveau-là.
Johan. Micro.
Ça va être l'Inter, le champion en l'occurrence. Il y avait d'autres candidats qui auraient pu être sympas, comme Bologne, l'Atalanta, qui ont eu des passages à vide, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas concurrencer vraiment l'Inter. Mais c'est vrai que les hommes d'Inzaghi, pour plein de raisons. La première, c'est que dans l'expression moderne de la tactique d'Inzaghi, des joueurs qui ont plusieurs postes, plusieurs fonctionnalités sur le terrain, un défenseur central axial gauche, qui est aussi arrière gauche, qui est aussi ailier gauche, qui peut être milieu gauche, milieu central. Donc tout ça est une compréhension et un développement du football assez assez moderne et assez évolué pour le coup. La deuxième chose, c'est que ça fait quand même plaisir de voir que les trois derniers champions en Italie, donc l'Inter, le Napoli et le Milan, l'ont été avec le meilleur football de la saison en question. Donc ça, c'est aussi un élément appréciable. Et puis le troisième, c'est 89 buts marqués en championnat, 10 matchs sur 38 à plus de 4 buts, de 4 buts ou plus cette saison en Serie A. Donc c'est vraiment des statistiques qui témoignent de cette qualité de football, en plus avec des joueurs qui jouent. Parfois, on avait le sentiment d'avoir un flipper. Voilà, ça joue sans se regarder, les yeux fermés, et on a eu une fluidité dans le jeu de l'Inter qui m'a donné beaucoup de plaisir cette saison.
Sur le chat, ça réagit bien sûr. Tiens, en Italie, il dit aussi pourquoi pas l'Atalanta?
Parce que la première partie de saison est pas très bonne, et donc c'est aussi ce qui leur coûte. Si on prend à partir de janvier, oui. Mais moi, j'oublie pas la première partie de saison où ça a été plus difficile avec notamment à la fois des résultats, mais pas seulement les résultats, les prestations étaient moins bonnes aussi.
En Angleterre, on nous dit également Aston Villa, mon cher Julien.
Oui, c'est vrai, j'ai pensé aussi à Villa, mais la seconde partie de saison, encore une fois, mais c'est, on est un peu tous dans le même cas, je pense. Des saisons complètes où tu joues très bien du début à la fin, c'est très très rare finalement. Et pour Aston Villa, ils avaient très bien commencé, bien sûr. Première partie de saison, fantastique. Deuxième partie de saison, ça a quand même été plus compliqué. Et dans le jeu, ça a aussi été beaucoup plus compliqué qu'en première partie de saison, que ce soit surtout après la blessure de Bouba Camara. Mais voilà, ça a été moins bon, moins flamboyant. Même Watkins a été moins bon, Bailey a été moins bon. Voilà, tout le monde a été moins bon. Donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'au final, tu te retrouves sur City et Arsenal, parce que dans la continuité, en tout cas, c'est eux qui ont sûrement été le plus constant.
C'est sûr que voilà, c'est parti. On nous cite Bologne aussi, de Thiago Motta, qui a produit un jeu superbe. Ouais. Également, bref, on pourra en parler des heures. Tiens, l'équipe qui a pratiqué le pire football selon vous, mon cher Polo, quelle est celle qui t'a le plus déplu en Bundesliga cette saison?
Alors moi, je donne souvent l'équipe la plus mauvaise, mais aussi en fonction de son effectif. Et là, je ne peux pas m'empêcher de parler du Wolfsburg de Niko Kovac. C'est-à-dire que je viens de dire que la plus belle équipe de Bundesliga, c'était Leverkusen, parce qu'il y a la possession alliée à la technique. Et j'aurais même dû dire, j'aurais pu rajouter le fait de courir, parce que c'est 118 km de moyenne quand même à Leverkusen. Et là, tu as une non-équipe. Quand je dis une non-équipe, c'est que tu as des internationaux quasiment à toutes les places. Une équipe qui en fait n'agit pas, mais passe son temps à réagir. Et quand tu t'appelles Wolfsburg, où tu es financé, et qu'évidemment il y a du dopage financier, il y a la fameuse piqûre financière, comme on dit en Allemagne, à Wolfsburg, et que tu pratiques ce genre de football saison après saison, et que tu attends que la mi-mars pour te séparer de Niko Kovac, tellement ton équipe était mauvaise et risquait même de descendre en seconde division. Donc je ne vais pas critiquer Hasan Hüttl, évidemment, qui vient d'arriver, mais je pense que dans la direction du club, il aurait fallu se séparer de Niko Kovac depuis bien plus longtemps. C'est une équipe qui a passé son temps à réagir et jamais à agir. C'est donc quelque part de l'anti-football, donc ce n'est pas mon football. Donc Wolfsburg, pire équipe de la saison.
12e de Bundesliga. Fred.
Bah, je vais faire ça très vite parce qu'elle ne mérite pas plus. C'est Rétafé, mais c'est quasiment tous les ans pareil. Il y a simplement une statistique qui résume bien ce qui se passe avec Rétafé. C'est que les matchs avec Rétafé sont ceux qui, en général, durent le plus longtemps. Parce que s'il y a tellement de... Il y a tellement de fautes, d'arrêts de jeu, enfin de volonté de ne pas jouer, bah que automatiquement, et surtout comme en Liga, il y avait des ordres cette saison pour laisser vraiment le jeu effectif le plus longtemps possible et de rajouter des minutes à la fin de la première période et à la fin de la deuxième période. Et ben quand tu joues contre Rétafé, tu sais que ça va durer longtemps parce que il va pas jouer. Donc ils se sont maintenus, hein, donc c'était l'objectif. 12e, ouais. Mais franchement c'est dommage. Alors tout football est légitime. Tant que ça reste dans les règles, mais il y a Leganés qui vient de monter. Je suis très content. Ben moi, je préfère avoir Leganés en première division qu'un Rétafé.
Avec Leganés, un ancien Stéphanois dans l'équipe, titulaire, Yvan Neyou.
Eh oui,
ah oui, c'est fait. Vrai.
Yvan Neyou.
Ouais.
On salue ça.
L'un des clubs évidemment. Les plus sympas d'Espagne, Leganés.
Ah oui.
Ouais.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont gentils. Puis ils se prennent pas trop. Non, mais
les gens sont gentils à Leganés.
Non, ben ouais, et parce qu'ils se prennent pas, parce que
c'est des ch'tis de.
Ouais, en gros. Non, mais c'est-à-dire que ils se remontent en première division. Ils ont fait plusieurs années en première division, mais ils ont toujours une mentalité de Segunda B, c'est-à-dire d'équipe de troisième division. C'est-à-dire qu'ils se prennent pas pour les trucs. C'est-à-dire parce que t'as des clubs comme ça qui du jour au lendemain te ferment les portes, pire que le Real Madrid ou le Barça quand t'es journaliste. Non, mais t'inquiète, viens, on va se trouver une place et tout. Il y a une manière de fonctionner. Ça. Comment?
C'est l'Union de Berlin qui est arrivé à l'Union de Berlin. Ça, c'est pour ça qu'il n'est pas choisi dans le pire équipe de la saison. Je pense qu'on reviendra un jour sur ce qui s'est passé.
Ouais, c'est intéressant.
Pourquoi ils ont pris le melon à l'Union de Berlin ou?
Légèrement, mais ils ne marquent pas de la tête, c'est dommage.
Oui.
Johan, ta pire équipe cette saison?
Bah, celle devant laquelle je me suis le plus ennuyé, clairement, le Torino. Malgré une 9e place, qui est l'une des meilleures saisons de l'ère moderne du Torino, mais un jeu cataclysmique. Hormis une ou deux exceptions, je me souviens d'un match contre Naples qui a été plutôt bien maîtrisé, où ils avaient gagné. Sinon, ça a été catastrophique de A à Z. Alors qu'en plus, ils ont des joueurs de qualité. Je pense à un milieu de terrain, quand t'as Ilic et Ricci, alors ça parle pas au plus grand nombre, mais Ilic et Ricci, je vous assure qu'en termes de qualité technique, c'est vraiment deux très bons joueurs. Quand vous avez Vlasic juste devant en plus, qui lui aussi est un très bon joueur technique, qui peut manier le ballon, bah voir des parpaings balancés des trois défenseurs centraux vers l'attaquant de pointe, je trouve ça inintéressant au possible. Et je vais vous donner deux stats. 36 buts marqués en 38 journées de championnat, même pas un but par match de moyenne. 17 matchs sans marquer cette saison, le deuxième pire bilan derrière Empoli. Et allez, une petite dernière pour vraiment brasser large. Un seul joueur à plus de 5 buts cette saison.
Un seul joueur à plus de 5 buts cette saison. T'as choisi un relégué, toi, mon cher Julien, en Première Ligue.
Ouais, parce que vous savez qu'il y a pas mal d'entraîneurs, David Moyes notamment, dont j'étais pas le plus grand fan, on va dire, cette saison, et d'autres que je pourrais nommer. Mais j'ai pas de mots, finalement, pour Sheffield United, l'une des pires équipes de l'histoire de la Première Ligue, de l'histoire de l'élite anglaise, finalement. 3 victoires seulement en 38 journées, il faut quand même le faire. 104 buts encaissés. Une des pires défenses de toute l'histoire, encore une fois, de l'élite anglaise. Une différence de but de moins 69. Enfin voilà, je sais pas, 16 points au final. Je sais même pas ce qu'on peut dire d'autre.
Ils ont gagné 3 matchs, j'ai vu ça. 3 matchs ils ont gagné cette saison, c'est fou.
Ouais, 3 victoires, simplement, en 38 journées. Autant, je suis d'accord avec Fred sur Rétafé, mais Rétafé au moins, ils ont un style. Et puis voilà, ils l'assument. Là, il y avait même pas de style, il y avait rien du tout, en fait, dans ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc,
merci, au revoir, quoi.
Merci, au revoir. Et puis à jamais, j'espère, hein, parce que non, je rigole.
Tu vous as fait évoluer.
Pour les fans de Sheffield United,
j'ai fait United, c'est possible. Voilà. Pourquoi pas. Voilà pour les pires équipes dans un instant. Votre révélation, je parle de joueur, hein, de la saison. Et on va également se projeter sur la saison suivante. Hein, le joueur que vous attendez sur le devant de la scène, qui va exploser également dans vos championnats respectifs. Deuxième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Polo.
Il fallait une musique triste. Et dans la musique hispanique, la plus triste, bah, c'est le tango. Le tango argentin, Los Paraguas de Buenos Aires, les parapluies de Buenos Aires, musique du grand Astor Piazzolla, le rénovateur du tango, et chanté par Mita Baltar, que j'ai l'honneur de connaître. Pourquoi une
musique... En fait, tu fais la promo de tes potes, hein, un
bah oui, oui, bah voilà, mais c'est vrai que, enfin, mon pote, je l'aime beaucoup, c'est une grande dame de la chanson. Enfin, pourquoi une musique triste? Tout simplement parce que c'était la fête, hein, ce week-end dans le foot espagnol, parce que le Real a encore gagné la Ligue des Champions, sauf que les résultats sont là. Pour la première fois depuis 31 ans, la Liga n'est pas dans les 4 premiers du classement UEFA. La Liga est 5e.
Ça pour fait des années.
Pour la saison, hein.
Pour l'année en cours.
Pas sur les quatre derniers exercices.
Pas sur les cinq.
Pas sur le cumul.
Oui, je parle de cette année.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, mais ça faisait 31 ans que c'était pas arrivé. Donc, et pourtant, il y a le Real qui est la Ligue des Champions. Mais il faut voir aussi, moi je dis souvent que c'est dans les petites coupes d'Europe qu'on voit le niveau d'un championnat. Ça a été une catastrophe en Conférence League et en Ligue Europa pour les clubs espagnols. Donc, c'est quand même dommage de voir cela. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ça fait plusieurs années que le niveau baisse, qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, attention, ce que je souhaite à la Ligue l'année prochaine, c'est de retrouver un petit peu de brio. Attention, parce que l'arbre Real Madrid cache une forêt un petit peu dépeuplée.
Est-ce que j'ai 20 secondes là-dessus ?
Bien sûr, Polo, vas-y.
Je comprends ce que dit Fred, mais je voudrais aussi qu'on... Parce qu'on nous sort les points, évidemment, 86, 89, 66, 69 pour la France, je ne sais plus. Mais en fait, on ne devrait pas raisonner en termes de points, on devrait raisonner en termes de temps, en termes de mois. C'est-à-dire que Fred dit que le football espagnol est en crise. En fait, on se rend compte que l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont à peu près les mêmes points quand aujourd'hui la première ligue est devant. Mais si tu raisonnais en termes de mois, eh ben, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne pourraient ne pas jouer une Coupe d'Europe pendant un an, elles seraient quand même devant la France. C'est-à-dire que ça me semble plus parlant quand tu fais un calcul sur 5 ans et que tu vois la moyenne de ce que fait le foot français, dont certains disent, par exemple, qu'ils sont meilleurs que le foot allemand et tout ça, eh ben, les Allemands ne pourraient pas jouer de Coupe d'Europe pendant un an, ils seraient quand même sur 4 ans devant les
d'où
devant
le top 4 européen, mon cher Polo, et pas top 5.
Ouais, exactement. Et c'est un truc fou parce que les points, on dit, ouais, je suis à 2 points. En fait, c'est difficile à mesurer. Si tu réserves en termes de mois ou en termes d'années, tu vois l'écart qu'il y a entre le top 4 européen et le reste.
J'entends plus beaucoup de voix françaises qui disent que la Ligue 1 est supérieure à la Bundesliga, mon cher Polo. Alors là, je vais les trouver, hein. Mais bon.
Ah bah, on va les trouver, tu vois.
Tu vas les trouver? Bah, amène-les moi au 32-16 si tu veux bien.
Si tu veux.
Je vais écouter leur argument. Dans un instant, la suite de Génération After qui est drôle de dame, révélation de la saison et saison prochaine. Tiens, d'abord, très rapidement, c'est important, Roland Garros, numéro 1 mondial, est en difficulté. Eric Salio, bonsoir.
Oui, bonsoir, Nico. C'est un match splendide parce qu'on est à 4h18 et le scénario est incroyable. Novak Djokovic semblait à la rue, mené 2-1, blessé au genou, et finalement, il a pris le quatrième set, 7-5. Il mène 3-2 au cinquième, mais il n'y a pas de break. C'est Cerundolo qui est au service.
Et puis je vous rappelle que Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid pour 5 ans, 5 saisons. Il en sera question largement dans l'after à partir de 21h avec Gilbert Bribois. La suite de Génération After, spécial Drôle de Dame sur RMC dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, Julien, Polo, Johan et Fred, en ensemble jusqu'à 21h. L'After en direct du Maroc de Casablanca pendant le relais dès 21h. Je vous rappelle encore une fois qu'ils parleront de Kylian Mbappé, parce que vous êtes nombreux sur le chat à parler de Kylian Mbappé, même si on le savait, on n'avait pas juste le jour, la date, l'heure, mais ce qui est arrivé, c'est évidemment un train. Alors c'est un très gros train, hein, qui arrive à l'heure, hein. Mais Mbappé sera un joueur du Real pendant 5 saisons. Ouais. Le débat, il y en aura bien sûr dans les prochains jours sur, effectivement, tu as déjà soulevé une des questions importantes, peut-il s'intégrer dans ce vestiaire-là, que va-t-il apporter au Real, était-il indispensable dans ce Real qui gagne tout? Encore une fois,
tu dis que c'est un train qui arrive à l'heure, enfin il est parti il y a longtemps quand même.
Il est parti il y a très très longtemps. C'est le train d'Épinay, pour ceux qui vivent dans le sud-est, exactement, qui va dans la montagne et qui met 8 heures à rejoindre Aspremont notamment. Bon, la révélation de la saison, ça c'est un sujet qui nous intéresse, qui intéresse aussi ceux qui nous écoutent. On parle d'individualité. Tiens, je vais commencer avec toi, Polo. Quel est le joueur que tu veux mettre en avant, dont on a peu parlé finalement cette saison en Allemagne?
On en a même
beaucoup
parlé en Allemagne, mais on n'a même pas eu le temps de l'en parler dans l'after. C'est Maximilian Bayer, le jeune attaquant d'Offenheim, qui l'année dernière était prêté à Hanovre, avait commencé à montrer un peu de quoi il était capable. Et il est, on parle beaucoup de Kramaric, l'ancien évidemment Offenheim, mais Max Bayer, qui a 21 ans, qui est pour l'instant dans le groupe pour l'Euro, qui a jamais encore porté le maillot de la sélection allemande. 16 buts cette saison, c'est vraiment le gars qui est peut-être l'avenir du football allemand. Lorsqu'on cherche un attaquant, il est plus polyvalent. Et donc je voulais le parler parce que quand tu vois les montagnes russes de cette équipe d'Offenheim, et ben dedans t'as peut-être un phare, et c'est un jeune gamin de 21 ans que j'aime beaucoup. Max Bayer, c'est lui pour moi la révélation de la saison.
33 matchs joués, 16 buts, hein. Ouais. 16 buts, c'est énorme en Bundesliga, 3 pas décisifs pour lui. Il va rester à Offenheim, qui va jouer l'Europe, hein, je rappelle, la semaine prochaine.
Il a un contrat jusqu'en 2027, mais on sait qu'il y a des en tout cas on en parle beaucoup du côté de Leverkusen.
Ah ben ça tombe bien, il va aller vers Kusen Bayer, évidemment.
Ouais. Et oui.
C'est le jeu de mots, mon cher Polo, évidemment. Tu l'as,
oui,
tu l'as pas,
oui,
c'est
oh,
pas
là, oui, là.
Mais je pense que Polo arrive fort intérieurement, mais il veut pas me concéder ça, c'est tout quoi. Julien,
c'est les revers à demain, j'ai du mal.
Mais il y a encore plein de revers à une main. Regarde, Tsitsipas, Wawrinka, Gasquet, il est encore là. Il y en a plein. Regarde. Magnifique.
Gasquet a 38 ans.
Oui, bah, Tsitsipas, il a 24 ans. Voilà, il est là,
oui,
quoi.
Mais...
pas que lui. Bon, Kobe, Julien, quel est ton joueur révélation? J'ai un peu défloré ton joueur.
Ouais, c'est pas grave. Kobe Mainoo, je pense qu'il y avait vraiment qu'un seul candidat de voir l'impact que ce jeune joueur de 19 ans, qui a eu 19 ans au mois d'avril. Donc, il a passé la majeure partie de la saison à 18 ans. L'impact qu'il a eu sur son équipe, déjà, Manchester United, une équipe de United qui a connu une saison compliquée, on l'a dit, 8e en championnat. Bien sûr, la Coupe d'Angleterre à la fin, la victoire contre City remonte un petit peu le bilan. Mais d'avoir vu ce jeune joueur-là débouler comme ça sur la scène nationale et puis maintenant internationale, puisqu'il va aller à l'Euro, enfin, il devrait aller à l'Euro avec l'Angleterre, 24 matchs comme titulaire, 24 matchs, 24 comme titulaire. Des buts assez magnifiques à inscrire, lui qui est un ancien attaquant, qui est maintenant joue devant la défense au milieu, qui a une aisance technique assez incroyable. Un vrai coffre aussi physiquement. Voilà, moi il m'a vraiment épaté cette saison. Je pense qu'il a épaté tout le monde, même si on savait qu'il était fort chez les jeunes. Il y a une différence, on le répète assez souvent, entre les jeunes ou la réserve et l'équipe première, et surtout à Manchester United, et surtout en Premier League. Donc voilà, vraiment sans aucun doute, aucun débat, Kobe Mainoo, la révélation absolue de cette saison.
On a assez peu parlé de Cole Palmer également, parce que c'est pas réellement une révélation, même s'il explose en termes de stats. On l'avait déjà vu en Premier League, il avait un peu tant de jeu à City notamment. Mais Cole Palmer aussi, Julien, c'est quoi, c'est 22 buts je crois,
fantastique.
C'est ça, 22
ouais,
buts, 11
ouais,
passes décisives.
Mais bon, il est 4 ans plus vieux déjà, ouais. Il avait déjà joué avant en Ligue des Champions. Là pour Mainoo, c'est vraiment la première. Quand tu m'as demandé les révélations, j'ai vraiment cru.
C'est très bien.
Mais Cole Palmer, c'est vrai, t'as raison de le souligner, saison assez exceptionnelle pour lui, et qui lui aussi aura l'Euro d'ailleurs avec l'Angleterre et notre ami Sylvain Ripoll anglais.
Johan.
Bah, c'est un joueur dont j'ai déjà parlé dans l'émission, oui. Qui avait même eu droit à une petite minute, c'est Mathias Soulé, argentin de Frosinone, prêté par la Juve. 11 buts, 3 passes décisives, première saison en tant que vrai titulaire dans une équipe en Serie A. Joueur argentin comme on les aime, pour ceux qui aiment ce type de profil-là, très technique, centre de gravité très bas, qualité de frappe enveloppée assez incroyable, petits espaces, capacité à accélérer, à gagner des 1 contre 1. C'est vraiment un joueur aussi qui est élégant. Il y a une stat qui me plaît beaucoup, c'est le 7e joueur dans le classement de ceux qui portent le plus la balle dans les actions offensives. Alors c'est dur de traduire parce que c'est carry en anglais, mais c'est vraiment cette capacité à prendre le ballon, à accélérer et faire des différences balle au pied, à prendre des espaces balle au pied. Donc c'est un prospect de la Juve, on sait, à mon avis il restera pas cet été parce que la Juve va sans doute chercher à monétiser un joueur de son groupe d'élite de jeunes footballeurs pour faire des joueurs entrants un peu plus expérimentés, plus de qualité dans certains postes. Donc voilà, est-ce qu'il est adaptable à tous les entraîneurs, Mathias Soulé? Pas certain. Mais en tout cas, en tant qu'ailier droit qui rentre beaucoup intérieur, et même, je pense qu'en tant que numéro 10, il aurait son mot à dire. C'est vraiment un super joueur.
Fred, en Espagne.
Et il a 20 ans.
Eh ben moi, il est catalan. Il joue au Barça. Il s'appelle Pau Cubarsí. Alors, 17 ans. Alors, 17 ans, quand t'es attaquant, finalement, c'est précoce, mais c'est pas incroyable. Ça arrive des fois. Mais 17 ans, quand t'es défenseur central et s'imposer, il a démarré fin janvier 2024 avec le Barça, son premier match avec l'équipe première contre une troisième division en Coupe du Roi. Et Pau Cubarsí, depuis, il est devenu un joueur incontournable du Barça. Et c'est-à-dire qu'en 4 mois, il a réussi à convaincre tout le monde, mais aussi le sélectionneur espagnol qui l'emmène à l'Euro. Donc, et surtout, ce qu'il y a de dingue, c'est que on dit souvent que les défenseurs centraux deviennent meilleurs avec l'âge, en fait. Vous imaginez comment il est déjà très fort et le fait comment il va être dans 4-5 ans ou même à 30 ans. Enfin, vous imaginez, dans 13 ans, il aura 30 ans et il sera encore jeune pour un défenseur central. Donc, si il est, comme on dit en espagnol, préservé par les blessures, on a peut-être un phénomène face à nous. Encore plus qu'un attaquant, je trouve, parce qu'il y a plein d'exemples. Bon, on aurait pu parler aussi de Lamine Yamal, bien entendu. Mais je trouve que Cubarsí, c'est encore plus impressionnant du fait de son poste.
Cubarsí, 17 ans, 24 matchs cette saison, toute compétition confondue pour lui, dont 3 apparitions en Ligue des Champions également.
Exactement, ouais. Et d'ailleurs, il avait été élu meilleur joueur du match de l'un des 2 matchs contre Naples.
La 3e minute de la soirée, elle est anglaise. On envoie la musique, Polo.
Souvenir.
Souvenir, tu vois, à l'ancienne, un petit peu quand même.
Ça avait bien commencé pourtant les minutes.
Ben non, mais j'ai un peu galéré pour être honnête, parce que je voulais parler d'Everton et du fait qu'on pensait pendant longtemps qu'ils allaient être rachetés par le groupe 777, donc 777 si vous préférez, si vous savez pas comment on dit 7 pour certains en anglais, je sais pas moi, en français, qui détient plein d'autres clubs, du Red Star au Genoa, etc., quasiment dans tous nos championnats. Et cette opération là se fera pas, oui, chez toi aussi Polo, se fera pas, parce que ben faut le reconnaître quand même, hein, 777 c'est un peu le bordel en ce moment, faut reconnaître. Ils ont surtout jamais vraiment eu l'argent non plus pour acheter Everton. Ils ont avancé de l'argent qu'ils avaient emprunté à quelqu'un d'autre, donc c'est quand même assez incroyable, des gars qui vont devoir rembourser. Donc on en a terminé avec ces négociations là Everton va recommencer donc son processus de vente, aller chercher d'autres investisseurs qui seront qui ont les reins plus solides, on va dire. Et donc j'ai choisi les Corrs, bien sûr, avec Breathless, cette chanson, une des favorites de Nico, bien sûr. Hein.
Ouais, bien sûr.
Simplement parce que j'ai un peu. Enfin, c'est pas que j'ai galéré, mais je voulais trouver un truc un peu
différent.
C'est
très bien, mais tout va bien, Julien, t'inquiète pas, ne sois pas trop intimidé par.
Il a la pression, il a la pression.
Surtout parce que. Non, mais c'est pas ça, parce que en fait,
c'est Polo qui fout
mais...
la pression à tout le monde pour les musiques.
Attendez-vous, les gars, Polo, il fout pas que des médiatiques, hein. Il a pas des bons non plus.
Ou Suisse ou Autrichien. Juste pour finir, donc, les Corrs, vous avez reconnu, bien sûr.
Les Irlandais.
Dont l'oncle. Peter Corr a joué pour Everton.
Ah bon.
Donc vous savez, c'était trois sœurs et un frère ou un cousin, je me rappelle plus, Sharon, Andrea, tout ça, Caroline et puis je sais pas qui. Et donc l'oncle avait joué pour Everton. Donc voilà, j'ai trouvé ça entre
très bien.
Les Corrs et donc Everton.
Oui, c'est bien, Julien. Un jour tu auras les Lawrences peut-être. Un jour tu montreras un groupe.
Oui, j'en doute.
T'en doutes, c'est pas parti. Bon,
non, vu les voix dans la famille, j'en doute.
D'accord. Voilà, c'est la minute de Julien. L'alerte. Pour le coffre RMC, c'est le moment de vous inscrire, hein, pour tenter de gagner la totale du coffre Euro 2024, un vidéoprojecteur Samsung, un barbecue Ninja, un fauteuil FFF Konix, une machine à glaçons, la mascotte de l'Euro. Vous envoyez coffre dès maintenant au 7-32-16, coffre au 7-32-16. Le tennis, Eric Salio, est-ce que Djokovic se dirige vers une qualification pour les quarts de finale?
Ah, bah, j'en sais rien du tout, il y a 4 jeux à 3 pour Novak Djokovic dans le 5e set, on est à 4h31. Et c'est Cerundolo qui est au service. Il a une balle de 4 jeux partout. On peut très bien avoir un super tie-break. Ça peut se finir dans une demi-heure, trois quarts d'heure, ce truc.
C'est incroyable. Ce mec a fini à 3h15 du matin, 40. Un truc comme ça, il y a deux jours. Et il a dû s'endormir à 6h, 7h du matin.
Il a joué à la pétanque.
Il a joué à la pétanque au Bois de Boulogne. Et ensuite, il repart sur le court pour un match de 4h30, voire 5h. Bon, reste avec nous. La suite dans un instant. Les révélations, les projections des drôles de dames. Quel joueur va se révéler la saison prochaine? Reste avec nous, Génération spéciale drôles de dames. À tout de suite.
RMC, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les 4 drôles de dames, comme tous les lundis soirs sur RMC, bien sûr. Eric Salio, très rapidement, Djokovic a fait le break.
Ouais, Novak Djokovic qui sert pour le match, Nicolas. C'est une rencontre incroyable. Il vient de breaker sur un coup droit lâché à toute puissance. Il n'y a pas eu d'annonce. Cerundolo a vu la marque, il a fait le mec, je sais pas. Donc Aurélie Tourte a descendu de chassège et elle a confirmé que la balle était bonne. Et maintenant, Novak Djokovic est à 30-0, à 2 points donc de décrocher sa qualif pour les quarts de finale de Roland-Garros à l'issue d'un match totalement insensé. Il va battre un nouveau record. Ça va être le match le plus long de sa carrière à Roland-Garros après son fameux match contre Nadal en 2013. Vous savez, cette demi-finale en plein cagnard. Donc voilà, 5-3, 30-0 pour Novak Djokovic.
On reviendra pour la balle de match, Eric.
Amazon vous livre Roland-Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voire tarif et conditions sur amazon.fr/prime.
Quel est le joueur à suivre la saison prochaine dans vos championnats respectifs, les drôles de dames? Tiens, je commence avec toi, mon cher Johan.
J'avais beaucoup de choix. Il a fallu faire un débat entre moi-même et moi-même pour en trouver un.
J'hésite entre qui?
Bah, il y a Patrick Dorgu que j'aime beaucoup de Lecce, arrière gauche, qui a même joué milieu gauche cette saison à Lecce, parce qu'ils ont deux joueurs à gauche qui sont vraiment au-dessus, Gallo, le jeune italien, et aussi Dorgu. Et lui, je pense vraiment qu'il peut devenir un latéral gauche moderne avec une grosse puissance, un gros volume de jeu. Donc c'est intéressant. Il y en a pas mal d'autres, mais j'ai choisi Valentin Carboni de Monza, prêté par l'Inter. Je reste dans les beaux joueurs élégants argentins, après Mathias Soulet. Lui, il a un physique tout autre. Il est costaud, bien solide sur les appuis. Il joue plus numéro 10 que sur un côté. Il a une qualité de ballon, évidemment, comme beaucoup de joueurs argentins. C'est deux gauchers également. capacité de marquer, de faire marquer, une très belle vision du jeu, capacité à accélérer le jeu, capacité à faire tourner le ballon, à le confisquer. Vraiment un joueur très intéressant. Ce qui va être difficile pour lui, c'est de bien choisir le club. Parce que c'est ça aussi le risque avec les joueurs prêtés, c'est que tu peux faire une très bonne saison. Derrière, tu vas être encore reprêté, et si tu fais le mauvais choix de club, tu joues pas parce qu'il est jeune, et qu'en Italie, bah, les jeunes, on les fait pas forcément beaucoup jouer. Cette saison, c'est 2 buts, 3 passes décisives, en 10 titularisations seulement. Il joue plus de 30 matchs, mais en fait, il fait 1100 minutes, donc il y en a beaucoup, c'est juste des bouts de match et des fins de match. Donc voilà, Valentin Carboni, joueur élégant au possible comme Mathias Soulet.
Voilà pour Valentin Carboni, 19 ans, hein, tu l'as dit, l'Argentin. Julien.
J'ai choisi Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace, le milieu de terrain défensif, 6 ou 8 on va dire, qui est arrivé en janvier de Blackburn, donc il jouait en Championship, en deuxième division, et qui a vraiment été exceptionnel depuis qu'il a commencé à jouer avec Oliver Glasner et à Crystal Palace. 15 rencontres comme titulaire, je crois, et une comme remplaçant, mais il s'est imposé dans ce milieu de terrain à Crystal Palace. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant, qui est d'ailleurs avec l'équipe d'Angleterre en ce moment. Je pense qu'il ira pas à l'Euro parce qu'il fera partie de ceux qui seront coupés de l'effectif quand il sera réduit, mais qui cherche toujours à jouer vers l'avant, qui est élégant sur le ballon, qui est accrocheur, qui va dans les duels, qui adore les duels, qui est très bon techniquement, avec une très belle vision du jeu. C'est vraiment un joueur à 20 ans. Il a eu 20 ans au mois de février d'ailleurs. C'est vraiment une très très belle promesse, et bravo à Crystal Palace pour être allé le chercher à Blackburn, et surtout à lui pour s'être si bien adapté et si rapidement adapté à la Première Ligue.
Et bravo également à Novak Djokovic, Eric Salio, c'est terminé.
Novak Djokovic, c'est pas sûr, c'est parce que Novak Djokovic s'est arrêté, il est convaincu que la balle est faute. Elle est confirmée faute par Henri Lestour.
Incroyable.
Victoire incroyable de Novak Djokovic en 5-7. Il était mené 4-2 au quatrième par Cerundolo, qui doit être effondré. Mais voilà, quand une bête est blessée, il faut l'achever. Il n'a pas su le faire. Victoire en 5-7, 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. Il jouera dans 2 jours contre le vainqueur du match, Fritz Ruud, qui se joue actuellement sur le Lenglen.
Voilà,
incroyable Djoko.
Incroyable Djoko, hein, l'avènement du revers à deux mains. Magnifique. Voilà pour Novak Djokovic.
Tu cherches la merde. Tu provoques.
Tiens, mais justement, Polo, quel est le joueur qu'on doit suivre chez toi en Bundesliga la saison prochaine?
Bon, il est pas sur le terrain ce soir parce que le match contre l'Ukraine va bientôt commencer. Oui. Il est sur le banc. Je vous ai parlé de Bayer. Il s'appelle Brian Gruda, pardon. Gruda, comme le nom du père, qui était un Albanais. Donc, il est à moitié Albanais, moitié Allemand.
Il a le même nom que son père.
Ouais, il a le même nom que son père. Je l'ai découvert l'année dernière parce que Mayence avait fait un petit exploit, chez les U19, le championnat junior des U19, toujours et régulièrement dominé par le Borussia Dortmund. Et ben, Mayence avait été aller chercher le titre et il avait été étincelant lors des matchs de fin de saison. Et lorsque le Danois Bo Henriksen a pris la place d'un autre Danois à Mayence, et ben, il a été titularisé systématiquement et c'est lui, à 20 ans, qui a porté l'équipe de Mayence pour se sauver en finissant avec 4 victoires et 5 matchs nuls, ou 5 victoires et 4 matchs nuls, je ne sais plus. Et on l'annonce soit au Bayern, soit à Leverkusen, soit à Dortmund, soit à Leipzig, un peu partout en Europe et en première ligue.
Même en Angleterre,
notamment.
Exactement. Ouais.
Exactement. Il a 20 ans et Gruda est normalement un ailier droit, mais il joue aussi souvent dans le 3-4-2-1 aux positions de milieu offensif. Et comme par hasard, Leverkusen cherche l'équivalent d'un Florian Wirtz, un petit peu plus ailier. Et ben moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'il aille là-bas. Donc, Gruda, je pense qu'il va exploser l'année prochaine. Et comme Bayer, en tout cas, cet été, ça va être chaud du côté de Mayence et d'Offenheim.
Évidemment, je note tout ça, je le retiens pour le début de saison. Brajan Gruda, 19 ans, Mayence. Voilà. Il me reste Fredo. Fredo, qui va exploser chez toi ou se révéler enfin en Liga?
C'est le joueur qui m'a le plus impressionné en sa fin de saison. Il est turc, il a 19 ans, il s'appelle Arda Güler.
Ben oui.
Franchement, alors il a joué 10 matchs, mais simplement sur la saison 11% des minutes possibles. Bon, il y a eu pas mal de problèmes de blessures en début de saison. Il s'est plaint de ne pas jouer. Il a joué que les petits matchs une fois que le Real était champion. Mais il a marqué 6 buts. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est la facilité technique de ce joueur. C'est-à-dire, il joue avec la balle avec une précision qui est incroyable. La balle fait ce que veut Arda Güler. Et ça, cette facilité, moi, ça m'impressionne. Moi qui aime surtout le football ultra technique, lui, c'est un ultra technicien. Donc, on va voir. L'année prochaine, il y aura sûrement beaucoup plus d'occasions hein, de briller. Parce qu'il faut pas oublier que la saison prochaine va être très, très longue. Puisqu'à la fin, il y a le Mondial des clubs. Et Dieu sait si le Real compte aussi sur cette compétition. Donc, il va falloir faire beaucoup tourner du côté du Real Madrid. Donc, il y aura l'occasion de voir plus souvent Arda Güler, 19 ans. On va le suivre de près.
Voilà pour les projections. Il nous manque une rubrique, hein, le club à suivre la saison prochaine. En quelques mots, Johan.
Ce sera le Napoli de Conte. Parce que quand Conte arrive dans un club, l'effet est souvent immédiat. Alors, il gagne pas toujours dès la première année, mais c'est souvent comme dans le cercle victorieux, dans le cycle victorieux d'Antonio Conte. Il amène en deux mois déjà une quantité de travail et de reconnaissance de sa méthode, ce qui fait que les joueurs ont la capacité à tout de suite assimiler beaucoup de principes de jeu. Et le Napoli, la saison prochaine, c'est 100 Coupes d'Europe.
100 Coupes d'Europe.
Un match par semaine.
Julien, en Angleterre.
Le Chelsea de Maresca, puisque Maresca a donc été confirmé aujourd'hui officiellement comme étant le successeur de Pochettino, le nouvel entraîneur de Chelsea. Un très long contrat d'ailleurs, un peu bizarre, mais un très long contrat jusqu'en 2029 avec une option pour une année supplémentaire. Mais voilà, il a fait du très bon travail à Leicester, on le connaît bien avec Yo bien sûr, de son temps à Parme où ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Ouais. Mais aussi avec Guardiola, on avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'est un des disciples de Guardiola, donc à voir ce qu'il va faire avec ce bon effectif, même si c'est un effectif qui est un petit peu bancal sur certains postes, mais quand même un très bon effectif, voir ce qui va arriver à Chelsea et Maresca la saison prochaine.
Fred.
Évidemment, le Real d'Mbappé. On a tous envie de voir ce que sera le Real sans Kroos et avec Mbappé.
Polo.
Très rapidement, je vais pas parler du Bayern, ça va être Stuttgart, saison suivante avec Sébastien Hoeneß et évidemment en Ligue des Champions. Et surtout la grosse question, avec quel effectif? On ne sait pas si Girassi sera encore là. Undaf est pour l'instant prêté. Furic, on ne sait pas s'il sera là. Donc il y a beaucoup de gros questions. Mais en tout cas, j'espère que Stuttgart qui était de loin vrai avec Leverkusen, l'équipe la plus intéressante de la saison, va continuer sa progression sous les ordres de Sébastien Hoeneß.
Deuxième de Bundesliga cette saison. C'est l'heure de la dernière minute de la soirée. Elle est italienne, on envoie la musique. Porte casuna con un stemma a rete,
una cuppulella che vi si era alzata. Un peu de napolitain, évidemment, tuo fall americano, de Renato Carosone. Évidemment du dialecte napolitain, alors pourquoi l'americano? Et bien, tout simplement parce qu'avec la montée de Côme, de Parme et de Venise. Venise décrochée hier contre la Cremonese lors du match de barrage, match retour. Eh bien, nous avons désormais 8 clubs italiens avec des propriétaires américains. Si l'on ajoute Côme, justement, avec un propriétaire indonésien, et Bologne avec un propriétaire canadien, la famille Saputo, nous sommes à 50% des clubs italiens avec un propriétaire étranger. Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta, Genoa, Inter qui vient de passer avec le fonds Octri, Venise et donc Parme pour les clubs italo-américains.
Voilà pour les drôles de dames. Tiens, c'est l'heure d'accueillir très rapidement. Voilà le vainqueur du coffre RMC. Bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Bienvenue. Donc tu as déjà gagné un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 €. Tu as le choix maintenant. Dans le coffre devant moi, il y a soit la Total Euro 2024 avec un vidéoprojecteur Samsung, un barbecue électrique Ninja, un fauteuil FFF de la marque Konix, une machine à glaçons, la mascotte de l'Euro 2024, soit une enceinte connectée à LED avec micro pour écouter RMC, bien sûr, faire la fête cet été. Est-ce que tu veux ouvrir le coffre ou est-ce que tu gardes le barbecue?
Alors écoute, c'est pas très compliqué, moi j'habite dans les Vosges, donc le barbecue j'en ai pas besoin, je tente le coffre.
Alors j'ouvre le coffre tout de suite, c'est parti. J'ai l'enveloppe sous les yeux, la réponse dans un instant, enveloppe pas simple à ouvrir évidemment. C'est parti, tu as donc gagné mon cher Cyril. Dans le coffre RMC, une enceinte connectée à LED waterproof plus le micro pour enchanter tes voisins.
Voilà,
j'espère que t'as une belle voix. En tout cas, tu vas pouvoir la travailler.
merci beaucoup et bravo pour l'émission.
Merci Cyril, bravo à toi. Dans un instant, l'after Gilbert, tu es en place à Casablanca au Maroc.
Exactement, on est parti pour 3 heures ici en public. Ah Nico, ouais. Il y a du monde à l'Institut français de Casablanca. On va parler foot marocain, on va débattre. Est-ce que le Maroc va gagner la prochaine CAN, la prochaine Coupe du Monde peut-être? On en saura peut-être plus dans quelques minutes. C'est ici en direct de Casablanca. C'est parti pour donc 3 heures dédiées au football marocain.
RMC, l'after foot en direct de Casablanca.